Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pie X, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, dans le polycopier, le deuxième polycopier, donc Saint Matthieu, chapitre 5 à, 6 à 10, pardon, nous en sommes à la page 39. Nous avions commencé la dernière fois, au dernier cours, Saint Matthieu, chapitre 10, versets 11 à 15. Je vous répète ces versets que nous allons expliquer, que nous avons déjà commencé à expliquer, qu'on va expliquer davantage maintenant. En quelque ville ou en quelque village que vous entriez, demandez ce qui est digne, qui y est digne, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la en disant « Paix à cette maison ». Et si cette maison en est digne, votre paix viendra sur elle. Si elle n'en est pas digne, votre paix reviendra sur vous. Et si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, en sortant de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, il y aura moins de rigueur pour Sodome et Gomorre au jour du jugement que pour cette ville. Donc nous avons vu la dernière fois que la poussière sur les pieds des apôtres qu'ils doivent secouer lorsqu'ils sont refusés dans une maison, secouer la poussière de vos pieds, cette poussière représente la légèreté des pensées de la terre, c'est-à-dire les choses mondaines. Les gens du monde pensent que toutes les choses de ce monde, justement, sont très importantes, alors que les gens qui ont la tête au ciel, qui ont l'esprit dans le ciel, qui vivent en état de grâce, en l'amitié de notre Seigneur Jésus-Christ, se rendent compte où sont les choses importantes. C'est une chose que j'ai déjà expliquée souvent, je me permets d'insister là-dessus, parce que les médias, que ce soit Internet, la télévision, la radio, la plupart des médias, tous les journaux presque, eh bien, ils vont nous faire croire que les choses superficielles sont importantes et nous faire croire que les choses importantes sont superficielles. Et en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la pratique? Ils vont, si vous voulez, saturer notre âme de choses superficielles pour qu'on n'ait plus le temps de s'occuper des choses principales, des choses importantes. Donc cette poussière est la figure de la légèreté des pensées de la terre, des choses qui, en fin de compte, des choses triviales, qui prennent tellement de place dans notre âme que finalement, on n'a plus de place pour les choses importantes, on n'a plus de place pour le bon Dieu. On n'a plus le temps pour prier. Alors, les pères de l'Église se posent la question de savoir pourquoi au verset 15, du chapitre 10 de Saint Matthieu, donc à la page 39 sur le polycopier du deuxième feuillet, du deuxième groupe de polycopier, donc polycopier, chapitre Saint Matthieu, chapitre 6 à 10, au milieu de la page. Donc les pères de l'Église se demandent pourquoi au chapitre 10, verset 15 de Saint Matthieu, notre Seigneur fait allusion à Sodome et Gomorre. Et voilà ce que disent les pères de l'Église, c'est tout à fait actuel, malheureusement. Notre Seigneur choisit ici, pour exemple, les villes de Sodome et de Gomorre, disent les pères, pour montrer que Dieu a surtout en horreur les péchés contre nature, péchés qui ont attiré sur le monde les eaux dans lesquelles il a été enseveli et qui ont amené la destruction de quatre villes entières et qui tous les jours sont cause de maux incalculables qui viennent frapper les hommes. Qu'est-ce que ces pères de l'Église diraient aujourd'hui? Je pense que plus que jamais aujourd'hui, il y a une telle confusion dans l'esprit des hommes qu'il faut rappeler la doctrine, pas forcément toujours l'expliquer à fond, passer des temps, des heures à l'expliquer, mais à la donner, affirmer la volonté, la vérité, pardon. Ce dont les gens du monde moderne ont le plus besoin aujourd'hui, mes bien chers frères, c'est l'affirmation de la vérité. Et dans ce domaine-là, dans le domaine des fautes contre nature, qui sont représentées par les péchés de Sodome et Gomorre, donc il faut se rappeler ce qu'enseigne l'Église. Je vous rappelle le catéchisme, je reprends tout simplement le catéchisme de Saint Pédis, hein, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Saint Pédis en 1910. Donc Saint Pédis parle de péchés tout particulièrement graves, et comme ils sont tellement graves, l'Église ne sait pas trop où les placer, les place dans une catégorie à part, qu'on appelle les péchés qui crient vengeance devant la face de Dieu. Et Saint Pédis pose la question, pourquoi dit-on que ces péchés crient vengeance devant la face de Dieu? Voilà ce que répond le catéchisme catholique. On dit que ces péchés crient vengeance devant la face de Dieu, d'abord parce que le Saint-Esprit le dit, mais aussi parce que leur iniquité est si grave et si manifeste qu'elle provoque Dieu à les punir avec des plus sévères châtiments. Deuxième question de Saint Pédis, quels sont les péchés dont on dit qu'ils crient vengeance devant la face de Dieu? Il y a quatre péchés, dit-il, dont on dit qu'ils crient vengeance devant la face de Dieu. L'homicide volontaire, le péché impur contre l'ordre de la nature, l'oppression des pauvres, le refus du salaire aux ouvriers. Quatre choses importantes. L'homicide volontaire, c'est l'avortement. Le péché impur contre l'ordre de la nature, là c'est une expression un peu générale. Dans l'ancien temps, par pudeur, on ne citait pas certains mots. Mais en fait, le péché impur contre l'ordre de la nature, c'est le péché justement qu'on appelle le péché de sodomie, le péché de Sodome, Sodome et Gomorre. Puis l'oppression des pauvres et le refus du salaire aux ouvriers. Donc quand les gens vous disent, mais quelle est la doctrine de l'Église sur ce sujet? Eh bien, allez dans ce chapitre du catéchisme de Saint Pédis. Donc c'est dans le chapitre sur les principales vertus. Et à la fin, il y a une partie sur le péché. Eh bien, dans le chapitre 6 de Saint Pédis. Donc les vices et les autres péchés très graves, il y a une partie donc sur les péchés qui crient vengeance contre le ciel, les deux premiers, je vous le rappelle, l'avortement et la sodomie. Et il faut tout simplement aussi citer, il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui parlent de ces péchés horribles, qui sont contre nature parce qu'ils tordent la nature même de l'homme. Si vous voulez, la révolution, une fois qu'elle a atteint, je dirais, elle a tout détruit. Il ne reste plus rien à détruire, l'arbre est complètement coupé, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tronc, il n'y a plus rien, plus de feuilles, il n'y a plus de branches, il n'y a plus de sève, il n'y a plus rien. Il reste encore les racines. Eh bien, le démon va essayer à ce moment-là, pour aller encore plus loin et être sûr que l'arbre ne repousse jamais, de tordre les racines même de l'arbre. Alors, pour savoir ce qu'en pense notre Seigneur Jésus-Christ, ben, il suffit d'aller à l'Épître aux Romains, donc la première des Épîtres de Saint Paul. Épître aux Romains, chapitre 1er, deuxième partie, donc du chapitre 1er de l'Épître aux Romains, versets 18, 20 à 32, ou 18 à 32. Voilà ce que dit le Saint-Esprit. Écoutons, on croirait ce chapitre, cette partie du chapitre 1 de Saint Paul aux Romains, écrite pour notre temps. Voici, dit Saint Paul, que du ciel, en effet, se révèle la colère de Dieu contre toute impiété et toute injustice des hommes qui détiennent la vérité captive de l'injustice, car ce qu'on peut connaître de Dieu est parmi eux manifeste, Dieu le leur a manifesté. Depuis la création du monde, en effet, ses attributs invisibles deviennent par ses œuvres visibles à l'intelligence, sa puissance éternelle comme sa divinité. Aussi sont-ils inexcusables, puisque connaissant Dieu, ils ne l'ont ni glorifié, ni remercié comme Dieu. Au contraire, ils se sont perdus en de vaines pensées, et leur cœur inintelligent s'est enténébré. Se flattant d'être des sages, ils sont devenus fous. Et à la gloire du Dieu immortel, ils ont substitué des images représentant l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà pourquoi Dieu les a livrés avec les convoitises de leur cœur à l'impureté. Donc, vous voyez, Saint Paul dit expressément que ces péchés contre nature dont il va maintenant parler sont une conséquence des péchés d'idolâtrie. Quand Saint Paul le dit expressément, ils ont substitué des images représentant l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Substitué à quoi? Substitué à Dieu. Donc le péché d'idolâtrie par laquelle on adore un faux Dieu, eh bien le péché d'idolâtrie entraîne les péchés de sodomie contre nature. Voilà le texte ici, donc qui s'adapte exactement à notre, malheureusement, à notre situation actuelle, au monde actuel. Voilà pourquoi Dieu les a livrés, verset 24 du chapitre 1 de l'épître aux Saint Paul aux Romains. Voilà pourquoi Dieu les a livrés avec les convoitises de leur cœur à l'impureté pour qu'en eux soit déshonoré leur propre corps, eux qui ont changé la vérité divine pour le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lequel est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infamantes. En effet, leurs femmes ont échangé le commerce naturel par celui qui est contre nature. Pareillement, les hommes ayant abandonné le commerce naturel avec la femme se sont consumés de désirs les uns pour les autres, ayant d'homme à homme des relations honteuses et recevant ainsi en eux-mêmes le juste salaire de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon de bien connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence pervertie pour faire ce qui ne convient pas. Remplis qu'ils sont de toute injustice, méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie, de meurtre, de disputes, de fourberies, de perfidie, médisants, calomniateurs, honnis de Dieu, insolents, orgueilleux, présomptueux, ingénieux pour le mal, rebelles aux parents, sans discernement, sans loyauté, sans cœur, sans pitié. Eux qui connaissent le jugement de Dieu, que ceux qui commettent de tels actes méritent la mort, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui les commettent. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit, ici, parlant par Saint Paul, parle non seulement de ceux qui commettent ces actes contre nature, de sodomie, mais qui en plus approuvent. Il parle aussi de ceux qui approuvent ces actes, ceux qui commettent ces actes. Donc, c'est pratiquement aussi grave que de commettre des actes contre nature de ce genre que d'approuver ces actes. Que le bon Dieu protège nos familles pour que nos enfants ne tombent jamais dans des horreurs pareilles. Et c'est pour cela que notre Seigneur, donc en ce verset 15 du chapitre 10, fait allusion à Sodome et Gomorre. Et ce n'est pas le seul endroit, on en verra d'autres dans l'explication des évangiles. Explication de Saint-Hilaire, donc toujours page 39 du Polycopier, dans le sens mystique. Donc, le Seigneur nous enseigne à ne pas fréquenter les maisons, à ne pas cultiver l'amitié des personnes qui se déclarent ennemies de Jésus-Christ et qui ne le connaissent pas. Les gens souvent me demandent cette question qu'on me pose souvent par téléphone ou par message électronique ou par lettre. Et les gens me demandent, Monsieur l'abbé, est-ce que j'ai le droit d'inviter dans ma maison des gens qui sont des gros pécheurs? Mais qui sont un peu des membres de ma famille, alors je ne peux pas trop éviter de les inviter. La réponse est relativement simple. Si ces gens qui sont des gros pécheurs ont une possibilité de pervertir vos intelligences, ou la vôtre, ou celle de vos enfants, il faut évidemment, dans ce cas-là, chasser ces gens et ne pas tolérer qu'ils rentrent dans votre maison. C'est absolument évident. Même ceci est valable, pas simplement, bien sûr, pour ces péchés épouvantables que l'Église catholique appelle les péchés qui crient vengeance devant la face de Dieu, mais aussi pour tout simplement le péché par définition, qui est le péché d'hérésie. Est-ce que j'ai le droit de laisser, par exemple, un hérétique parler à mes enfants, surtout mes petits-enfants qui n'ont pas encore beaucoup de moyens de se défendre, alors que je sais très bien que cet hérétique va essayer de corrompre les enfants? Moi, j'ai connu plusieurs cas d'enfants qui ont été complètement corrompus parce que les parents n'ont pas fait attention et ont pris, alors qu'ils partaient en soirée quelque part, invités par des amis, ils ont pris les services d'une jeune fille pour garder les enfants. Et puis, ils ne se sont pas rendus compte que cette jeune fille, en fait, profitait de l'absence des parents des enfants pour corrompre les enfants. Et lorsqu'ils s'en sont aperçus, c'était trop tard. Les enfants avaient été corrompus. Donc faire très attention. Maintenant, si par votre charité, par votre gentillesse, vous pensez que vous pouvez arriver à obtenir la conversion, préparer une conversion de quelqu'un qui vit dans le péché, mais qui a encore une certaine bonne volonté, il y en a encore, Dieu merci. Alors là, oui, vous pouvez parler avec eux. Oui, mais c'est arrivé très souvent de parler avec des gens qui ne sont pas des catholiques, mais qui cherchent le vrai. Il y a quelques jours, j'ai encore reçu un coup de téléphone d'une personne qui me téléphone, qui me pose un certain nombre de questions, qui est intéressée par la retraite, et qui finit par me dire, monsieur l'abbé, est-ce que j'aimerais beaucoup, beaucoup venir faire la retraite. J'ai mis, comme vous le savez, c'est sur le site internet, dont Dame Marie, j'ai mis 6 retraites pour l'année 2019. Vous avez ça dans la page d'accueil du site. Et cette personne me disait, monsieur l'abbé, j'aimerais beaucoup venir faire la retraite, mais il y a un problème qui va peut-être m'empêcher de venir. Vous n'allez sans doute pas m'accepter. Pourquoi ? Mais parce que je ne suis pas catholique. Mais mon ami, je lui ai répondu, mais les retraites sont d'abord faites pour des gens non catholiques. Les retraites sont faites pour monter les gens vers le bon Dieu. Les gens qui sont déjà très proches du bon Dieu, ils n'ont pas beaucoup à monter. Par contre, les gens qui sont très loin de Dieu, ils ont bien plus à monter. Vous voyez ? Et cette personne s'est inscrite pour la retraite des Hauts-Gratiens, j'en suis ravi. Et bien sûr, il est bienvenu. Et en général, je leur conseille à ce moment-là de commencer à préparer d'ici la retraite, préparer leur retraite en étudiant bien le catéchisme. Catéchisme de Saint-Pilice, catéchisme aussi qui est sur le site. Donc il y a un cours de catéchisme très complet, je vous rappelle, sur le site de 110 cours en suivant le catéchisme de Saint-Pilice et le catéchisme du Concile de Trente. Je dis, écoutez un petit peu, travaillez le polycopier qui est sur le site, sur le catéchisme, travaillez les conférences de catéchisme, même si c'est un gros travail, pour vous former un petit peu, former un petit peu l'oreille, surtout aux termes utilisés. Parce que c'est plus facile pour eux de suivre la retraite s'ils comprennent déjà les termes que je veux utiliser. Parce qu'on n'a pas toujours le temps en retraite, quand on prêche les 5 jours de Saint-Ignace, d'expliquer chaque terme. Bon, par exemple, si je parle de la grâce, je ne vais pas forcément tout le temps expliquer ce qu'est la grâce. Donc c'est beaucoup plus facile si un non-catholique a lu son catéchisme et par ses lectures, il sait un peu ce qu'est la grâce. Et à ce moment-là, les portes s'ouvrent, la porte de son âme s'ouvre. Et en général, une bonne retraite, ça suffit à convertir complètement ces gens-là avec la grâce du bon Dieu. Dieu convertit les gens par la retraite. Alors attention, il ne faut pas non plus tomber dans le panneau de l'effet à contrario de ceux qui disent, et il y en a beaucoup, oui bon d'accord, les exercices de Saint-Ignace c'est bon pour les gros pécheurs, mais c'est pas du tout nécessaire pour les bons catholiques. C'est totalement faux. Les bons catholiques aussi doivent s'approcher du bon Dieu. Et les bons catholiques qui sont déjà un peu proches du bon Dieu doivent devenir davantage proches du bon Dieu. Donc les exercices de Saint-Ignace sont là pour tous les hommes. Tous les hommes peuvent les suivre. Il faut adapter évidemment, c'est le rôle du prédicateur, adapter un petit peu les temps de méditation, la façon de faire la méditation aux gens à qui on parle pour les aider. Hein, c'est évident que c'est la raison pour laquelle on demande aux retraitants de venir voir le prêtre une fois par jour pour que justement le prêtre puisse aider la personne qui peut être un peu perdue sur certaines choses pour lui expliquer les choses qu'il ne comprend pas. Vous voyez ? Donc continuons ce texte de Saint-Hilaire. Dans chaque ville, il faut nous demander, dit Saint-Hilaire, qui est digne de nous recevoir ? C'est-à-dire demander si l'Église est quelque part ou si Jésus-Christ a lui-même une habitation. Et une fois entrés, n'allons pas ailleurs, car cette maison, celui qui l'habite, sont dignes que nous y arrêtions. Il devait se rencontrer beaucoup parmi les Juifs dont l'attachement pour la loi serait si grand que tout en croyant en Jésus-Christ dont ils avaient vu et admiré les prodiges, ils ne pouvaient cependant sortir des œuvres de la loi. Et donc les apôtres vont aller voir les juifs prêtres convertis, les juifs de bonne volonté. Hein? Paix aux hommes de bonne volonté. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, et paix aux hommes de bonne volonté, ont chanté les anges à la crèche de Bethléem. Et donc quand les gens me demandent, mais monsieur l'abbé, quelles sont les conditions pour suivre les exercices Saint-Ignace, je leur dis la bonne volonté. La volonté de suivre les règles de Saint-Ignace, de bien faire la méditation le mieux possible, bien écouter les conférences qui expliquent un petit peu chaque exercice de Saint-Ignace, et puis après c'est le bon Dieu qui fait le travail, c'est pas le prêtre qui convertit, hein, c'est le bon Dieu. Autre explication des pères de l'Église en bas de la page 39, d'autres curieux d'examiner la liberté dont Jésus-Christ est l'auteur devaient user de feinte en quittant la loi pour l'évangile. Plusieurs autres, enfin, devaient être entraînés dans l'hérésie par la dépravation de leur intelligence. Et comme tous prétendent, mais bien à tort, qu'ils sont en possession de la vérité catholique, il ne faut entrer qu'avec précaution dans cette maison qui se dit l'Église catholique. Vous voyez ? Donc faire attention parce que beaucoup de gens se présentent comme catholiques aujourd'hui, ils ne le sont plus. Vous avez des prêtres de l'Église de Vatican II qui se présentent encore comme catholiques? Il y en a peu. La plupart, au moins, ont le bon sens de dire, oui, nous, ça n'a plus rien à voir avec l'Église catholique, c'est l'Église des temps modernes, c'est l'Église de Vatican II. Mais attention à la dépravation de l'intelligence. Vous voyez, il est très très difficile de prêcher les exercices Saint-Ignace, puisque j'en parlais il y a 2 minutes, à des gens qui ont une intelligence dépravée. Il faut revenir, réapprendre d'abord aux gens à penser droit. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est la première chose que nous demandait Monseigneur Lefebvre dans notre formation à Icône. Apprenez aux gens à penser droit. Et pour que vous puissiez apprendre aux gens à penser droit, une fois que vous serez prête, si la grâce du bon Dieu le permet, eh bien, il faut que vous-même, vous pensiez droit. Parce que personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Donc, apprenons à penser droit. Donc, c'est très, très difficile de changer des gens qui ont déjà une cervelle à l'envers. C'est pour ça, moi, l'expérience m'a montré qu'on peut prêcher ces exercices à des tas de gens, même des non-catholiques. Il n'y a qu'une classe de gens à qui on ne peut pas prêcher les exercices parce que ça passe comme l'eau sur les plumes d'un canard, c'est les modernistes. Le moderniste est vraiment enfermé dans son modernisme, peut pratiquement plus rien faire parce que les mots n'ont plus le même sens pour lui et pour moi. Il est incapable de garder le silence, il veut constamment, constamment discuter, dialoguer, dialoguer, il faut dialoguer avec l'erreur et puis sa propre conversion n'y pense pas. Donc attention à cette dépravation de l'intelligence. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est la dépravation de notre intelligence, parce que notre intelligence n'est plus capable d'atteindre la fin pour laquelle elle nous a été donnée, à ce moment-là, on n'a plus rien à faire. N'oublions pas que le bon Dieu nous a donné une intelligence, non pas pour qu'on en fasse ce qu'on veut, le bon Dieu nous a donné une intelligence pour qu'on atteigne le vrai. C'est le vrai qui est l'objet formel de notre intelligence. Il y a parfois des gens qui refusent d'utiliser leur intelligence selon le mode d'emploi donné par Dieu pour l'usage de cette intelligence. Bon, il n'y a plus rien à faire. Donc il faut avoir au moins une honnêteté intellectuelle, chercher le vrai. Notre Seigneur nous l'a dit d'ailleurs. Il a dit, frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous donnera. Donc il suffit d'avoir l'intelligence droite, un désir de trouver le vrai, et le bon Dieu donne les grâces. Pourtant, il est évident que quelqu'un qui cherche à se justifier dans son péché, qui cherche à rester dans le péché, a dit, oh, mais le bon Dieu nous a dit qu'il ne fallait pas faire telle ou telle chose, qu'on n'avait pas le droit de voler, qu'on n'avait pas le droit de mentir, qu'on n'avait pas le droit de tuer le voisin, mais ma conscience me dit de faire ce que je veux. Donc, je peux faire ce que je veux. Mais il est évident que quand nous avons des pauvres gens comme ça, qui en sont à ce degré de corruption et de corruption, de dépravation de l'intelligence, on ne peut plus faire grand-chose. Ceux, disent les pères, qui rejetaient les apôtres, rejetaient en même temps la grâce et le salut du Christ, et péchaient plus gravement que les sodomites par des péchés multiples. Infidélité, désobéissance, ingratitude, inhospitalité, rébellion contre Dieu, contrairement aux lois de la nature et de Dieu. Ils rejetaient sa grâce si libéralement offerte et confirmée par de nombreux miracles. Donc le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a prouvé sa divinité, non seulement par les miracles qu'il a faits, il en a fait beaucoup, mais aussi en accomplissant toutes les prophéties de l'Ancien Testament. C'est pour ça que notre Seigneur va souvent citer des passages de l'Écriture sainte de l'Ancien Testament pour rappeler les prophéties de l'Ancien Testament. Les prophéties de l'Ancien Testament, on verra ça plus tard, mais les prophéties de l'Ancien Testament avaient explicité déjà tout ce qui allait se passer. David avait annoncé que le Messie serait un Messie souffrant. Il a dit dans le psaume 21 que le Messie va avoir ses mains et ses pieds percés, qu'on va tirer au sort sa tunique. Il était dit dans les prophéties que le Messie allait naître à Bethléem, dans la tribu de Juda, dans la tribu de David, pardon. Alors, posons-nous cette question en bas de la page 39. Sur le polycopier, pose-nous cette question importante. Donc, c'est une explication là, du verset 15. En vérité, je vous le dis, il y aura moins de rigueur pour Sodome et Gomorre au jour du jugement que pour cette ville. Donc, les pères de l'Église se posent cette question toute simple. Pourquoi le Christ compare-t-il les apôtres, ceux qui rejettent les apôtres, aux sodomites? Bon. Bien, voilà les réponses que donnent les pères de l'Église. Sont intéressantes. Parce que ces gens qui rejetaient les apôtres étaient coupables d'inhumanité, de barbarie contre les invités. Ils furent avertis par Lot et le méprisèrent. Et aujourd'hui, ils sont avertis par les apôtres que le Christ avait envoyés pour leur salut et ils les méprisent également. Les sodomites, disent les pères, furent punis par le feu et le soufre du ciel. Et eux seront punis par le feu et le soufre en enfer encore plus sévèrement. Car les sodomites avaient entendu la... Si les sodomites avaient entendu la prédication du Christ et ses apôtres et en avaient vu les miracles, ils auraient cru, se seraient repentis. Vous voyez ? Donc, ceci pour expliquer cette phrase est importante. Je la relis. Si les sodomites avaient entendu la prédication du Christ et de ses apôtres et avaient vu leurs miracles, ils auraient cru et se seraient repentis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même quelqu'un qui vit, hélas, dans les péchés contre nature, qui sont dans la catégorie des péchés qui crient vengeance contre la face de Dieu, eh bien, ces péchés, Dieu peut aussi les pardonner, à condition, bien sûr, que le pécheur les regrette. J'ai prêché les exercices de Saint-Ignace plusieurs fois à des gens qui avaient ces problèmes-là. Soit je le savais avant, dans certains cas, soit on finissait par le découvrir au cours de la retraite, ils venaient nous le dire au bout de 2-3 jours. Et j'ai vu des conversions magnifiques. Donc tout est possible, même un retour vers le bon Dieu de quelqu'un qui a une âme complètement contaminée, dépravée, qui a une intelligence complètement dépravée par les péchés contre nature. Dieu peut convertir un sodomite et le remettre sur la voie droite. Donc il ne faut jamais se décourager. Il y a parfois une croix épouvantable. J'ai eu des gens en pleurs. J'ai vu des parents en pleurs qui me disaient, monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'on fait ? Un de nos enfants vient de nous avouer qu'il était devenu un sodomite. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, eh bien, il faut prier pour lui. Prier, pénitence. Prière, pénitence. Parce qu'avec la prière et la pénitence, tout peut être possible. Rappelez-vous cette phrase, si même ces gros pécheurs avaient entendu la prédication du Christ, ils auraient cru, se seraient repentis. Donc il ne faut jamais, jamais, jamais se décourager. Jamais se décourager. J'ai prêché plusieurs fois les exercices à des gens comme ça, et j'ai eu plusieurs cas de conversion. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que les conversions de ce genre exigent de couper avec beaucoup, beaucoup d'occasions de péché. Et j'ai vu j'ai plusieurs cas de gens qui étaient malheureusement tombés dans ces péchés épouvantables, qui ont réussi à s'en tirer, mais c'était très dur parce qu'il fallait qu'ils changent de ville, qu'ils changent d'état, qu'ils changent de pays parfois, qu'ils changent de métier, qu'ils changent de tout, parce que lorsque l'un d'entre eux essaye de se sortir de la nasse, du filet qui englobe, qui amène en enfer les sodomites, évidemment, toute la famille des sodomites leur saute dessus pour les empêcher de se convertir. Mais tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Donc des parents qui ont la grosse, grosse croix d'avoir un enfant qui a des tentations de ce genre, doivent pas se décourager. Alors, apprenez aussi à répondre, j'en parle un petit peu, parce que c'est des questions qu'on nous pose souvent, les gens qui ont cette tendance-là, souvent nous disent, mais monsieur l'abbé, c'est une tendance naturelle. Une tendance naturelle. Eh bien, si on a une tendance naturelle qui est mauvaise, eh bien, il faut lutter contre la tendance naturelle. Imaginez quelqu'un qui dise, moi, monsieur l'abbé, j'ai une tendance naturelle à voler le voisin. Dès que je vois un portefeuille qui dépasse la poche de quelqu'un, je le vole. Parce que c'est ma tendance naturelle. Alors, il faut laisser ces gens voler, continuer de voler les portefeuilles, votre portefeuille, parce que peut-être qu'il a une tendance naturelle. Moi, monsieur l'abbé, j'ai une tendance naturelle à casser la figure à tous les gens qui ont une tête qui ne me reviennent pas. C'est dans ma nature. Dès que je vois quelqu'un qui a une tête qui ne me revient pas, je sors le coup de poing américain et je l'écrabouille. Mais monsieur l'abbé, il ne faut rien dire, c'est ma tendance naturelle. Ou des gens, et ça c'est beaucoup plus fréquent, me disent monsieur l'abbé, moi j'ai une tendance naturelle à boire. Parce que j'ai vécu dans un milieu d'alcoolique et j'ai une tendance naturelle à boire. Alors parce que cette personne a une tendance naturelle à boire une bouteille de whisky tous les soirs, il faut laisser boire tranquillement sa bouteille de whisky parce que c'est une tendance naturelle. Un peu de bon sens. Donc les gens qui me disent, monsieur l'abbé, c'est cette sodomie qui est en moi, et c'est une tendance naturelle en moi. Je dis, mon pauvre ami, tout est possible la grâce du bon Dieu. Si vous rendez compte qu'il y a en vous une mauvaise tendance, eh bien justement, il faut lutter contre. Et le bon Dieu va vous donner les grâces pour vous sortir de là. Et j'ai vu encore une fois des conversions magnifiques. On avance, page 40. Saint Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 18. Voici que je vous envoie, comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mais mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous flagelleront dans leur synagogue et vous serez traduits à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux nations. On croirait vraiment ces passages-là écrits pour notre temps d'aujourd'hui. Alors il faut bien bien méditer, mes bien chers frères, les explications des pères sur ces passages, parce que c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, on est traduit devant les tribunaux, tout simplement parce qu'on est catholique. On est traduit devant les tribunaux, tout simplement parce qu'on rappelle certaines choses qui ne plaisent pas, qui sont politiquement non correctes, comme on dit. Et donc, les gens qui sont politiquement corrects veulent nous traduire en tribunal et nous détruire. Voyons un petit peu ce que disent les pères sur ces versets, page 40. Remarquez que ce n'est pas simplement vers les loups que notre Seigneur les envoie, mais au milieu des loups, afin que sa puissance se manifeste avec plus d'éclat. Lorsqu'on verra les brebis triompher des loups tout en vivant au milieu d'eux, et qu'au lieu de périr sous leurs morsures répétées, elles parviendront à les changer, à les convertir. Vous voyez, donc là, les pères de l'Église expliquent bien qu'on peut convertir un loup en agneau. C'est pas le prédicateur, c'est pas l'apôtre qui va convertir les loups en agneaux. C'est Dieu qui parle et qui agit à travers l'apôtre, à travers le prédicateur, à travers le prêtre. C'est une œuvre bien plus grande et bien plus admirable de changer leurs âmes que de les mettre à mort. En s'exprimant de la sorte, Dieu, notre Seigneur, leur apprend à montrer la douceur des brebis au milieu des loups. Beaucoup, 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 beaucoup de charité. Même quand on a en face de nous des gros, gros pécheurs. Si vous voyez ce gros pécheur qui est en face de vous, qui est peut-être vautré dans les péchés contre nature jusqu'au cou, vous voyez un tout petit début de bonne volonté, même si c'est une petite miette, un petit grain de sable de bonne volonté, soufflez pas sur la braise. Je veux dire, ne jetez pas un seau d'eau sur la braise. Il ne faut pas éteindre la mèche qui fume encore. Quand vous voyez un petit peu cette bonne volonté, tout de suite pratiquez cette charité. Combien de fois je l'ai vu, des gens qui sont venus me voir, qui sont venus voir le prêtre, ce sont moi ou quelqu'un d'autre, qui sont venus voir le prêtre et qui avaient des grosses, 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 grosses difficultés morales. Et ils viennent, ils ne savent pas comment parler, et puis ils finissent par lâcher le morceau. Ils ont l'impression qu'ils vont être jetés dehors comme des malpropres. Et si le prêtre les écoute avec douceur, avec gentillesse, et qu'ils sentent dans ce prêtre, qu'ils voient dans ce prêtre notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qu'ils entendent dans les paroles du prêtre les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qu'ils voient dans les actions du prêtre les actions de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, alors les conversions sont possibles. C'est d'imaginer un petit peu ce qui s'est passé lorsque notre Seigneur Jésus-Christ recevait des confidences de gros pécheurs. Méditez par exemple sur ce sujet-là, la conversion de Sainte Marie-Madeleine. Regardez la charité de notre Seigneur avec Sainte Marie-Madeleine. Et Dieu savait tout, il connaissait tous les péchés de Sainte Marie-Madeleine. Il n'a même pas demandé la confession d'un seul péché. Il a vu les pleurs. Il a vu que ces pleurs étaient des véritables pleurs. Il a compris que Sainte Marie-Madeleine regrettait ses péchés, allait en paix et ne péchait plus. Vos péchés sont pardonnés. Elle est devenue Sainte Marie-Madeleine. Donc beaucoup, beaucoup de charité. Quel dommage malheureusement de voir si souvent dans les milieux de la tradition, je ne vais pas donner le nom, mais dans les milieux de la tradition, surtout c'est des vacantistes, des gens qui passent leur temps à engueuler, excusez-moi du terme, engueuler les autres. Toujours en train de crier, toujours en train de se plaindre, toujours en train de se prendre pour la cuisse de Jupiter, comme on dit vulgairement. Voyez, beaucoup de charité. Je me rappelle, on peut dire tout ce qu'on veut sur Monseigneur Lefebvre, qui n'avait pas peut-être tout compris sur certains points, entre autres au niveau du pape, mais Monseigneur Lefebvre avait cette charité. Monseigneur Lefebvre avait cette extraordinaire douceur, cette charité qui était, je dirais, tellement forte que quand on était près de Monseigneur, on était en quelque sorte en osmose avec lui, parce que sa charité était tellement grande qu'elle finissait par partir, par passer sur nos épaules à nous. Vous voyez ? Et donc, je me rappelle cette extraordinaire charité de Monseigneur Lefebvre au séminaire des Cônes, avec des gens qui parfois venaient le voir et qui étaient très très agressifs, extrêmement agressifs. Et j'ai vu plusieurs cas de parents qui étaient furieux de savoir qu'un de leurs enfants commençait à tourner autour des Cônes, les cherchait à y rentrer, commençait à venir passer quelques temps à Cônes pour commencer à connaître le séminaire. Ils étaient furieux. Donc, Monseigneur Lefebvre a reçu ces gens-là et par sa douceur et sa gentillesse, il arrivait à les changer, à condition qu'ils cherchent le vrai. Bien sûr, dans certains cas, on a eu plusieurs cas, je me rappelle, au séminaire, dans mon temps de séminaire, de 74 et 79, où des journalistes, par exemple, venaient pour faire des enquêtes sur le Fraternité Saint-Pilice, mais ils cherchaient la petite bête. Ils ne venaient pas pour chercher le vrai, ils venaient pour essayer de nous détruire. Alors à ce moment-là, c'est autre chose. Alors les gens ne cherchent pas le vrai, on n'en a rien à faire, à ce moment-là, il n'y a plus que les mettre dehors. Donc, faisons attention donc à cette vertu de charité. Donc je reprends donc ce texte très important de Saint-Hilaire, en milieu de page 40. Le démon s'est d'abord attaqué à l'âme. Attendez, pardon, je me trompe. Donc on est en page 40. Excusez-moi, page 40. On est juste en dessous donc des versets 16 à 18. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc, et nous prévient justement que les persécutions vont venir. Ils vous livreront au tribunal, ils vous flagelleront, ils vous seraient traduits devant moi par les gouverneurs, devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux nations. Donc, notre Seigneur nous envoie au milieu des loups. Il nous demande de changer les âmes, même des loups. C'est facile de s'occuper des brebis et des agneaux. Le bon Dieu, de temps en temps, il nous demande de nous occuper des loups. C'est facile de nous occuper des fidèles qui sont toujours gentils et aimables. Parfois, le bon Dieu nous demande de nous occuper de fidèles qui sont vraiment, vraiment casse-pieds. C'est moins qu'on puisse dire. Remarquons ici que nous sommes envoyés, disent les pères, comme des brebis au milieu des loups, parce que Dieu veut que nous conservions la pureté de l'innocence sans jamais nous rendre coupables des morsures de la méchanceté. La prudence leur fera éviter les empluches, la simplicité les garantira du mal. Notre Seigneur leur donne pour exemple la finesse du serpent, parce qu'il cache sa tête dans les replis de son corps afin de mettre à couvert le siège de sa vie. Notre Seigneur dit, soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un serpent. Notre Seigneur Jésus-Christ ici analyse une qualité naturelle du serpent, la prudence. Le serpent est extrêmement prudent. Il ne va pas rester au milieu du danger. Tout de suite, il se cache dans un trou pour se protéger. Bon, les anciens disaient que le serpent protège d'abord sa tête. Parce qu'il sait que tant que la tête est protégée, il peut survivre. Même si les ennemis coupent un bout de sa queue ou une partie de son corps, mais s'il perd un bout de sa queue, eh bien, tant que la tête est là, il survit. Il peut encore mordre et se défendre et tuer. Eh bien, mes bien chers frères, c'est un peu la même chose pour nous, vous voyez. Voilà ce que disent les pères. Devons-nous sauver au péril de tout notre corps, notre tête qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire nous appliquer à conserver notre foi dans toute sa pureté, dans toute son intégrité. On ne peut pas changer la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Le rôle du catholique, c'est de garder la pureté de la foi, pureté virginale de la foi catholique. Le rôle du pape, c'est de conserver le dépôt de la foi. Et le rôle du catholique dans le monde moderne, c'est de conserver le dépôt de la foi aussi, au moins pour lui. Non, évidemment, c'est plus difficile pour nous, parce que nous, on n'a pas le privilège de l'infaillibilité pontificale. Le pape, lui, il a. Pie XII, il avait le privilège de l'infaillibilité pontificale parce qu'il était pape. Nous ne le sommes pas. Et c'est pour ça que quand on voit devant nous quelqu'un qui se prétend pape et qui n'a aucune envie de conserver le dépôt de la foi, qui fait tout pour le détruire, eh bien, cette personne ne peut pas être pape. C'est absolument évident, c'est du bon sens élémentaire. Autre explication des pères, Rabban Mor, Le serpent a coutume aussi de se frayer un passage dans les ouvertures étroites pour y laisser en passant son ancienne peau. C'est ainsi que le prédicateur, en traversant la voie étroite, doit se dépouiller entièrement du vieil homme. Donc le serpent qui laisse sa mue derrière lui représente le catholique qui se dépouille du vieil homme pour justement avoir une pureté de cœur qui lui permette de se protéger dans le monde moderne et de convertir les gens autour de lui avec la grâce du bon Dieu. Saint Rémy. Le Sauveur donne ici une bonne leçon au prédicateur en leur recommandant d'avoir la prudence du serpent, car c'est par le serpent que le premier homme fut trompé. Il semble leur dire « Le serpent a été prudent et rusé pour tromper, soyez prudents vous-même pour sauver. Il a fait l'éloge de l'arbre de la science, exaltez vous-même la puissance de la croix. » Les pères de l'Église en parlent énormément, on verra ça dans la Passion. Les pères de l'Église disent de même que le malheur est arrivé sur le monde par le bois de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit défendu, et par la désobéissance d'Adam et Ève, désobéissance d'Ève, puis ensuite la désobéissance d'Adam. De la même façon, le bonheur, le salut va venir d'un autre bois, le bois de l'arbre de la croix, qui va justement permettre à ceux qui s'abritent sous son ombre de pouvoir monter vers le ciel. Saint Hilaire, au milieu de la page 40. Le démon s'est d'abord attaqué à l'âme du sexe le plus faible et l'a séduite par l'espérance en lui promettant la participation à l'immortalité. Donc attention à ces mensonges. Hein, le monde moderne, jamais souffrir, jamais mourir. Hein. Donc Saint Hilaire explique donc que Ève a été roulée par le démon. Justement en faisant croire à Ève qu'elle pourrait devenir comme Dieu. En gros, c'est ça. Il faut souvent, mes bien chers frères, là ici les pères en parlent, ça j'en parle aussi, souvent méditer, reméditer, re-reméditer les mensonges du démon pour rouler Adam et Ève dans la farine. Et ça a marché. Et pourtant, Adam et Ève avaient les dons préternaturels. Ils avaient l'immortalité, l'impassibilité, la science infuse. Ils avaient tous ces dons. Hein? Ils avaient une sagesse extraordinaire en eux. Ils se sont fait rouler par le démon. Alors, quels sont ces mensonges du démon? Toujours les mêmes. Et ceux que le démon a utilisés, les mensonges que le démon a utilisés pour rouler Adam et Ève, il les utilise aussi aujourd'hui parce que ça continue de marcher. On est tellement bêtes que ça marche toujours. Hein? Vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, vous ne mourrez pas et vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. Vos yeux s'ouvriront, vous connaîtrez tout. Vous ne mourrez pas. Donc ne craignez pas la mort, ne craignez pas la vie après la mort, puisque de toute façon, vous ne mourrez plus. Vous deviendrez comme des dieux, et parce que vous deviendrez comme des dieux, c'est vous en tant que dieu qui déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. Et ça a un nom. Monseigneur Lefebvre nous disait souvent en sermon, cette pomme que le démon a présentée à Adam et Ève et qui a corrompu Adam et Ève, cette pomme, eh bien c'est la liberté. Et cette promesse de pouvoir décider par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, ça a un nom, c'est la liberté de conscience. Liberté de conscience qui est à la base, à la fondation de toute la République satanique qui nous dirige depuis la révolution de 1789, pratiquement. Tout est fondé sur la liberté de conscience. Pour cela que lorsque le pape Pie IX a condamné dans le syllabus la liberté de conscience, c'était en 1868 je crois, il a bien dit dans Quanta Cura, il dit la liberté de conscience est une liberté de perdition et une insanité. Une insanité. Et c'est deux fois, attention. Hein? Donc se rappeler que le démon a roulé encore une fois Adam et Ève par ces mensonges qui nous sont présentés en face de nous à longueur de journée par l'Internet, par la télévision, par les journaux. Et donc rappelons-nous, méditons ces mensonges. Je vous les répète, il faut que ça rentre dans la cervelle. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux et vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. Aussi, dit Saint-Hilaire, nous devons choisir nous-mêmes l'occasion favorable, eu égard à la nature et disposition d'un chacun, pour parler avec prudence, révéler l'espérance des biens éternels et prédire en toute vérité, en nous fondant sur les promesses de Dieu lui-même, ce que le démon n'a promis que par un mensonge, c'est-à-dire que ceux qui croient deviendront semblables aux anges. Le Sauveur donc réunit ces deux vertus, la simplicité et la prudence, car la simplicité sans la prudence peut être facilement trompée, et la prudence a ses dangers lorsqu'elle n'est pas tempérée par la simplicité. Quel beau français! C'est Père de Guise, extraordinaire. La simplicité sans la prudence peut être facilement trompée, la prudence a ses dangers lorsqu'elle n'est pas tempérée par la simplicité. Et qu'est-ce qui va nous aider donc à gouverner, si vous voulez, avec prudence et en même temps la simplicité? Attention, la simplicité, ici, ce n'est pas la naïveté, hein. C'est la simplicité. Bienheureux les pauvres en esprit. C'est la pauvreté d'esprit, la simplicité. Bienheureux ceux qui ont la simplicité d'esprit. Ce ne sont pas des gens compliqués. Eh bien, qu'est-ce qui va régler justement tout ça? C'est le don de sagesse. C'est le don de sagesse qui va nous aider, si vous voulez, à utiliser de temps en temps la rame de droite, de temps en temps la rame de gauche, pour pouvoir faire avancer la barque. Ou disait telle ou telle voile en fonction du vent pour faire avancer le bateau. Donc parfois il faut utiliser la simplicité, parfois la prudence. Soyez prudents comme les serpents, simples comme des colombes. Cette simplicité, si vous voulez, cette simplicité, en fait, ce que veut dire ce mot simplicité, soyez simples comme des colombes, c'est la pureté d'intention. La prudence et la pureté d'intention. Pour cela que saint Thomas enseigne, c'est que la prudence est la vertu du chef. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la force n'est pas la vertu du chef, c'est la prudence. Celui qui est prudent, c'est celui qui peut diriger. Malheur à celui qui est en charge d'une communauté qui est imprudent. L'imprudence peut amener à des catastrophes. Des catastrophes. Donc que chacun, se méfie de lui-même, car l'homme est un loup pour l'homme. Et que personne ne dise qu'il est né dans un temps qui l'empêche d'être martyr. Il n'y a plus de Néron ou de Dès aujourd'hui, mais n'importe qui peut devenir un martyr s'il résiste avec virilité à la luxure, aux craintes et aux tentations pour l'amour de Dieu. Un texte qui a été écrit il y a 16 siècles. Mais ces textes sont toujours actuels, attention. Certes, il semblerait aujourd'hui, au moins pour nous, au moins jusqu'à présent, que le bon Dieu ne demande pas si vous êtes un martyr de sang, quoi que ça risque d'arriver. On peut se poser la question, comment se fait-il qu'au début de l'histoire de l'Église, pendant toutes les périodes des persécutions, il y a eu des martyrs terribles. Il y a eu des persécutions terribles, il y a eu jusqu'à 14 millions de martyrs depuis la première persécution, celle de Néron en 67, jusqu'à la paix de Constantin en 313. Pourquoi il y a eu tellement de persécutions physiques à ce moment-là, et pourquoi ces persécutions physiques aujourd'hui semblent ne pas être là? Mais tout simplement parce que le démon a compris que les persécutions physiques font des saints. Les persécutions physiques entraînent des martyrs. Il y a eu des millions de personnes qui sont montées au ciel, pas grâce aux persécutions. Il n'y aurait pas eu les persécutions au premier siècle de l'Église. Ces 14 millions de martyrs ne sont peut-être pas au ciel. Ils sont au ciel grâce aux persécutions. Et le démon a compris ça. Alors qu'il a compris qu'au lieu de persécuter les corps, il faut persécuter les âmes, corrompre les intelligences. Ils corrompent les intelligences des tout-petits quand ils sont encore incapables de se protéger par eux-mêmes. Corrompent le cœur des enfants, corrompent l'intelligence des tout-petits pour pouvoir être sûr de les posséder plus tard. Regardez ce qui se passe actuellement où ils cherchent maintenant à séparer les enfants des parents dès l'âge de 2 ou 3 ans dans les classes maternelles pour pouvoir les corrompre dans les écoles sans Dieu. Donc les persécutions physiques entraînent le martyr, les persécutions morales, très souvent, pas toujours, mais on peut dire que les persécutions physiques entraînent le martyr, et donc le salut pour tous ces martyrs, les persécutions morales très souvent entraînent l'apostasie. L'apostasie des nations, on y est. Donc les pères de l'Église vont traduire un peu ces mots en prenant l'exemple des grands persécuteurs, là, ils citent, les pères de l'Église parlent surtout de Néron, Julien l'Apostat et Dès. Donc Dès, empereur Dès, un grand persécuteur, symbole de la cupidité. Néron, un autre grand persécuteur, un des premiers, le symbole de la crainte. Julien l'Apostat, symbole de la tentation. Julien l'Apostat qui était catholique, attention, et qui a tout envoyé promener. N'oublions pas que certains des plus grands ennemis de l'Église catholique sont des anciens catholiques, corrompus, pervertis, qui ont oublié leur baptême. Le petit père Combes qui a fait la séparation de l'Église et de l'État en 1905, c'était un ancien séminariste. Hein. Alors là, il y a des, en bas de cette page 40, vous avez des textes magnifiques des pères de l'Église. J'en cite certains, ils sont splendides. Vos compagnons vous persécutent. Vos compagnons se moquent de vous, vous calomnient, la fièvre, le froid, l'asthme vous tourmente. Si vous supportez avec patience ces choses pour l'amour de Dieu, vous devenez un martyr de la patience comme Job. Donc, on peut se sanctifier aussi par la patience. La gourmandise vous aiguillonne, vous vautrez dans le vin, les délicatesses, résistez, vous serez un martyr de l'abstinence comme Daniel. L'ambition vous attire pour vous élever au-dessus des autres, pour viser aux hautes dignités, chasser ces idées de votre esprit et vous êtes un martyr de l'humilité, de la modestie comme saint François. Votre supérieur vous ordonne de faire des choses difficiles qui répugnent à vos sentiments. Obéissez pour vous vaincre vous-même et vous devenez un martyr de l'obéissance comme Abraham quand il offrait Isaac. La luxure vous titille-t-elle? Mortifiez-la par le jeûne, crucifiez-la par des chemises de crin, et vous serez un martyr de la chasteté. Étudiez, enseignez, prêchez, travaillez, allez chez les Indiens pour sauver les âmes qui périssent, et vous serez un martyr de la charité comme saint François Xavier. Donc si vous ne pouvez pas monter au ciel comme martyr, vous allez devoir monter au ciel d'une autre façon. Et en devenant justement, c'est ça, c'est dans le monde moderne, c'est peut-être ce que le bon Dieu nous demande actuellement, devenir des martyrs de la patience, des martyrs de l'abstinence, des martyrs de l'humilité, de la modestie, de l'obéissance, de la chasteté et de la charité. N'oublions pas qu'à la base, si vous voulez, de toute la révolution depuis 1789, et déjà avant, parce que n'oubliez pas que la révolution de 89, elle a fait ses premières armes aux États-Unis, c'est la révolution de 1776 aux États-Unis qui est la même, hein, même principe. Eh bien, derrière tout ça, il y a l'orgueil. L'orgueil du démon, qui transmet son orgueil dans la tête de l'homme, qui va dire « je ne servirai pas ». Et donc, face à cet orgueil révolutionnaire, la seule solution, c'est l'humilité. Face à l'orgueil moderne, à l'orgueil de l'Église de Vatican II, l'humilité de l'Église catholique. Et vous et moi, bien chers frères, nous devons pratiquer cette humilité. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de pratiquer l'humilité. Comme c'est difficile. Mais on ne va pas au ciel avec l'orgueil. C'est impossible. L'orgueil est trop lourd à porter et du coup, ben, ça fait sombrer le nageur qui nage sur les eaux du monde pour essayer d'atteindre le port du salut. Page 41, verset Saint Matthieu, chapitre 10, versets 19 et 20. « Lorsqu'ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, car ce que vous devez dire vous sera donné à l'heure même. En effet, ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. » Comme ces textes sont actuels. Voilà ce que disent les pères. « Si notre foi se donne tout entière à l'accomplissement des divins préceptes, Dieu de son côté lui donnera la science nécessaire pour répondre. Il en a pour garant l'exemple d'Abraham, à qui Dieu, après lui avoir demandé le sacrifice de son fils Isaac, fit trouver le bélier nécessaire au sacrifice. » Donc Saint Augustin enseigne qu'un prédicateur doit prier et étudier avant son sermon. Mais aujourd'hui, quand il parle, il faut s'assurer que les paroles du Seigneur sont applicables pour tout esprit qui cherche Dieu. Le Seigneur Lefebvre nous disait souvent qu'il voulait que le prêtre, avant de prêcher, ait déjà fait sa méditation avant la messe et dit une partie de son bréviaire. Justement parce que la méditation, l'oraison et puis le bréviaire vont alimenter sa prédication. Il faut bien comprendre ça, n'oublions pas, c'est l'enseignement surtout du Père Emmanuel, le deuxième Saint curé d'Ars, hein. Le Père Emmanuel, curé du Bénit Saint-Loup pendant 40 ou 50 ans, un homme extraordinaire, et qui explique bien que le prêtre est d'abord l'homme de la prière. Il est l'homme de la prière, puis il est l'homme de la pénitence, parce que par la prière et la pénitence, eh bien, il va préparer son âme à la prédication. Donc malheur au prêtre qui prêche sans avoir d'abord prié, fait pénitence. Donc d'abord la prière et la pénitence, puis le prêtre va pouvoir prêcher. Il prêche pour préparer les âmes. Préparer les âmes à quoi? Préparer les âmes à recevoir les sacrements. Donc prière et pénitence pour préparer le prêtre, puis le prêtre prêche pour préparer les fidèles. Et à ce moment-là, il va pouvoir préparer le terrain pour que les hommes puissent recevoir, puissent planter la graine de la grâce dans un sillon qui est bien préparé, dans une terre qui est propre, qui n'est pas envahie par les mauvaises herbes, les insectes et les pierres. Donc d'abord la prière, premier rôle du prêtre, la prière, deuxième rôle la pénitence, troisième rôle la prédication, quatrième rôle les sacrements, et enfin, s'il y a un peu de temps qui reste, les bonnes œuvres. Mais d'abord la prière. Le prêtre est d'abord l'homme de la prière. Et la première prière du prêtre, avant tout, et même avant la Sainte Messe, c'est son bréviaire. Je vous rappelle que l'obligation du prêtre de dire son bréviaire tous les jours, à tel point que le manquement volontaire d'une petite heure du bréviaire, qui peut durer 5 minutes, comme les fils de tierce ou de sexe ou de nonne, c'est suffisant pour qu'il commette un péché mortel. Quel dommage de voir tous ces prêtres, ça m'a toujours énervé cette chose-là, de voir ces prêtres qui considèrent la prédication comme quelque chose de tout à fait secondaire. Alors, il est 11h du soir, 11h du soir, samedi soir, le prêtre n'a pas encore commencé à préparer son sermon, et puis il est 11h du soir, aïe, aïe, demain c'est dimanche, il faut que je prêche, de quoi ça parle, de quoi parle l'évangile, et puis vite il va chercher un livre qui contient ce qu'on appelle un sermonnaire, qui contient des idées de sermon, puis il met quelques notes sur un gribouille, quelques notes sur un papier, où il va vite rechercher un sermon qu'il a déjà donné pour ce même dimanche, et puis il le donne. Les gens qui écoutent ça se rendent tout de suite compte que ce sermon n'a pas été préparé, il n'a pas été médité. Je me rappelle avoir demandé, je ne suis pas le seul, des tas de gens ont demandé à Monseigneur Lefebvre, Monseigneur, comment préparez-vous vos sermons? Les sermons de Monseigneur Lefebvre étaient magnifiques. On demandait à Monseigneur, comment vous préparez vos sermons? Et Monseigneur Lefebvre nous a donné la clé. Il nous a dit, je les médite. En méditant les sermons, on peut arriver à comprendre comment justement parler aux gens. Donc, il faut s'assurer, dit saint Augustin, que les paroles du Seigneur sont applicables pour tout esprit qui cherche Dieu. Conseil beaucoup pour ceux qui peuvent mettre la main dessus, de lire le petit opuscule du père Emmanuel du Ménil Saint-Loup, le traité du ministère ecclésiastique. Bon, strictement parlant, c'est fait pour les prêtres, mais pour les religieux, mais il y a des choses magnifiques même pour les fidèles. Hein. Au moins le lire pour comprendre le rôle du prêtre. Une fois que vous avez lu ça, vous comprenez que le premier rôle du prêtre, c'est pas de célébrer la messe, le premier rôle du prêtre, c'est de prier. Prier et faire pénitence. Et la pénitence du prêtre est tout simple, hein, c'est sa soutane. Pourquoi? Parce que le col de la soutane symbolise l'obéissance, la soutane elle-même la pauvreté, la ceinture du prêtre la chasteté. Et donc, prière, pénitence, étude. Je pense que c'est les trois choses qui sont absolument nécessaires aujourd'hui pour un prêtre. Prière, pénitence, étude. Prière et pénitence, plus étude pour alimenter sa prédication, préparer les âmes. Si je ne prie pas, si je ne fais pas pénitence, si je n'étudie pas, je n'aurai rien à donner. Et les fidèles vont vite s'en rendre compte. Vite s'en rendre compte. Versets 21 et 22. Le frère livrera son frère à la mort, le père son fils, les enfants se souleveront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Rappelez-vous la promesse de Notre-Dame, à la fin, mon cœur immaculé gagnera. Donc à la fin, mon cœur immaculé triomphera, c'est ça qu'elle a dit. Hein. Elle a dit à la fin, pas au début, ni au milieu, à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Vous demanderez à la Sainte Vierge dans votre méditation. Là, on est sûr de la victoire, mais la victoire ne va pas arriver tout de suite. Elle arrivera à la fin. À la fin, notre Seigneur Jésus-Christ va venir avec les apôtres pour juger les vivants et les morts à la résurrection générale. Et là, tout le monde, y compris tous ces politicards qui se moquent de Dieu, tout le monde sera obligé de s'agenouiller, de fléchir le genou devant notre Seigneur Jésus-Christ et de reconnaître que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Bon, ce serait un peu trop tard, malheureusement, pour beaucoup d'entre eux. Ici une citation de Saint Rémy, le caractère propre de la vertu, ce n'est pas de commencer, c'est d'achever. Le bon Dieu ne nous a jamais promis un voyage en douceur. Il nous a promis une arrivée en douceur, pas le voyage. Et ce n'est pas à ceux qui commencent, mais à ceux qui persévèrent que la récompense est donnée. En effet, persévérer dans le Christ et persévérer dans la foi, nous avons en lui qui agit par la charité. Donc demandons cette grâce de la persévérance. Persévérance dans la foi catholique. Ne nous disons pas, oh, moi je suis assez fort, je suis suffisamment bien formé, il n'y a aucun risque pour moi. Oui. Oh, que non. Comme nous sommes, nous aussi, nous pouvons nous perdre comme Judas s'est perdu. Il n'y a pas un seul péché que le voisin commet, que je ne sois pas capable de commettre aussi, et sans la grâce du bon Dieu, rappelez-vous. Et je vais terminer par ça. Rappelez-vous cette phrase que je cite souvent de Saint Philippe Néri, « Ô Jésus, notre Seigneur, gardez Philippe dans vos mains, parce que d'ici ce soir, sans votre grâce, je suis suffisamment bête pour me faire juif ou musulman. » Et sans la grâce du bon Dieu, d'ici ce soir, je peux perdre la foi. Oui, mais bien, chers frères, comme il est important de comprendre toutes ces choses-là, même si ce ne sont pas des choses faciles. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.